Roméo et Juliette, un extrait donc de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano, vous l'avez reconnu, c'est le générique de Vendredi Théâtre. Et presque toute l'équipe de Vendredi Théâtre est avec moi dans le studio. Bonjour, donc il y a Grazia avec moi. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Nous avons Robin et nous avons un petit nouveau, Christopher, qui va faire ses débuts aujourd'hui à l'antenne. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec un spectacle qui se passe au 13 Vents, la salle des 13 Vents, d'Hydro Bagarre. Je suis avec Régis de Martrain-Donos. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Delon.
Bonjour.
Alias Denis Diderot.
Voilà.
Alors, c'est dans la petite salle donc, des 13 Vents, dans la salle de répétition qui est utilisée maintenant depuis deux saisons, donc avec une plus petite jauge qu'habituellement, donc il y a 100-110 places à peu près.
Voilà, c'est ça. Et puis, dans un dispositif original, en quadrifrontal. Comme c'est une salle polyvalente, ça permet de soit d'avoir des gradins, soit on peut faire plein de choses formidables dans cette salle qui a été créée par Jean-Marie et Jean-Marie Bessé et Gilbert Desvaux depuis leur arrivée.
Alors, Diderot Bagarre, il s'agit de quoi ? Il s'agit donc, vous avez travaillé sur la correspondance de Diderot. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler plus particulièrement sur la correspondance ?
Mais pour la bonne raison que la correspondance n'a jamais été mise en scène au théâtre.
Effectivement.
Donc c'est un parti pris très original et parce qu'on, comme Diderot a beaucoup écrit de dialogues philosophiques comme le rêve de D'Alembert, le neveu de Rameau, c'est souvent adapté pour le théâtre. Or la correspondance n'a jamais été adaptée et c'était avec Muriel Brault qui enseigne notamment à Montpellier et à Paris à la Sorbonne, c'était le point de départ. Du spectacle, travailler comme ça sur cette correspondance qui est très très riche et qui est à la fois aussi très oral parce que Diderot s'amuse à dialoguer aussi dans sa correspondance.
C'est un Diderot peut-être un peu plus intime que celui auquel on est accoutumé aussi.
C'est un Diderot, oui, évidemment, puisque la plupart de ses lettres sont écrites à sa maîtresse. C'est vrai qu'il se confie, avec plus d'intimité. Et puis quand il parle des sujets importants comme la religion, le fanatisme ou la politique, évidemment, il est d'autant plus offensif parce que la correspondance n'est pas publiée à l'époque.
Il peut se lâcher un petit peu, surtout en ce qui concerne la religion et son matérialisme.
Voilà, oui. Et puis, donc, on a voulu, quand même, on a choisi de traiter, on ne peut pas tout traiter, évidemment, surtout en 1h15, mais on s'est fixé comme principaux thèmes l'amour, ce qui est très, très important.
Chez Diderot, c'était quand même un libertin.
C'était un libertin, oui. L'amour, la religion, donc, le gouvernement. Alors aujourd'hui, on a quand même l'habitude de critiquer le gouvernement. C'est pas... les unes des journaux sont très, très agressives comme ça, mais à l'époque, c'était évidemment beaucoup plus risqué qu'aujourd'hui.
Donc, il a fini à Vincennes, d'ailleurs, à un moment.
Voilà, c'est le point de départ du spectacle, c'est son emprisonnement à Vincennes. Et puis, le dernier élément, c'est évidemment le siècle des Lumières avec son encyclopédie.
Alors c'est votre première mise en scène ou parce que vous êtes en résidence au 13 Vents, on vous connaît plus comme auteur, vous aviez été assistant à la mise en scène déjà, là c'est votre première mise en scène.
C'est ma première mise en scène dans des conditions professionnelles, mais c'est vrai que j'avais une compagnie où je m'essayais à la mise en scène avec le peu de moyens que j'avais. Mais là c'est vraiment une chance incroyable d'avoir à disposition comme ça les moyens, les techniciens, la salle... Pour une création, c'est plus facile. Les conditions de travail sont extraordinaires.
Sont optimales.
Voilà.
Je vais me tourner vers Stéphane, alias Denis Diderot.
Et oui.
Comment vous avez découvert, vous, cette correspondance ? Vous connaissiez un petit peu Alors, la correspondance de Diderot ?
Moi, je connaissais l'œuvre de Diderot comme tout élève en France qui va passer le bac. J'ai eu droit au 18e. J'étais fan de Voltaire, moi, et Diderot aussi, mais je ne le connaissais pas vraiment intimement. J'ai découvert la correspondance à cette occasion-là. Je ne l'ai pas lu en entier. J'en ai lu des bouts. Je me suis appuyé, bien sûr, sur le texte de Régis. Et ma foi, j'ai trouvé que ce Diderot-là était un chouette bonhomme. Mmh. Voilà. Un type bien. C'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer pour boire un café avec. Quoi. Vraiment. Un bonhomme très chouette, très plein, très entier.
Très en avance sur son temps aussi.
Probablement. Pas d'atermoiement. Les choses doivent être claires. Il y a beaucoup, on a remarqué avec Régis que dans le texte, il y avait beaucoup de « il faut ». Il commençait beaucoup de phrases par « il faut » et ça en dit long sur le bonhomme. Quoi. Il est toujours en train de se pousser. Il y a un moment dans le spectacle, j'ai l'air d'un homme qui va toujours cherchant quelque chose qui lui manque. Et je crois que tout est dit. Voilà.
Et donc, dans le spectacle, vous rencontrez un jeune homme avec qui vous dialoguez. C'est presque un dialogue socratique.
Oui, il y a quelque chose de Socrate un peu là-dedans.
C'est un vrai. Petit peu Alcibiade que vous rencontrez.
Ouais, allez, voilà, pourquoi pas. Non, il a, oui, c'est ça. On a 300 ans d'écart. Voilà l'astuce de mise en scène est celle-ci. On aurait donc un Diderot qui serait endormi, on va mettre ça entre guillemets, sur une scène de théâtre. Et donc, il dérange le travail d'un éclairagiste d'aujourd'hui, au XXIe siècle, qui doit monter le décor ou la lumière, en tout cas d'un spectacle. Et on a Diderot sur le plateau qui le gêne. Et donc, il va commencer d'abord de lui demander de déguerpir. Et puis, petit à petit, quand il va se rendre compte que c'est le Diderot, il va essayer de le pousser un peu dans ses retranchements. Alors, c'est effectivement quelque chose d'assez socratique aussi, parce qu'il n'est quand même pas sot, ce jeune homme. Mmh. Et il lui pose des questions qui montrent qu'il connaît bien son sujet, son Diderot. Voilà, donc c'est assez amusant. D'ailleurs, on a rajouté en fin de parcours dans les répétitions que peut-être il avait fait Cagne. On s'est dit ça comme ça. Non, parce que vraiment, il était très instruit. Voilà.
Il est assez brillant.
Ouais.
Grazia, tout le monde a vu le spectacle. Tu veux intervenir?
Je veux bien.
Parle bien devant le micro.
Oui. Donc, si j'ai cru comprendre qu'en fait, ce spectacle faisait partie d'un tour à vocation pédagogique pour les lycéens du Languedoc, Roussillon.
C'est le point de départ du projet. À la base, c'était un spectacle qui ne devait être créé que dans les lycées. Et puis, comme il y a eu quand même tout un buzz autour du spectacle, qu'il y a eu aussi un créneau qui s'est libéré dans la petite salle, justement, il s'est inscrit dans la saison, mais très tard. Donc, en fait, les répétitions ont été avancées. Ça a été assez précipité parce qu'on devait le créer en janvier. Finalement, c'est créé en novembre. Donc, moi, ça m'a mis un coup de...
un peu de pression.
Pression pour finir cette adaptation. Et oui, c'est ça qui est... À partir de janvier, on commence une tournée dans les lycées avec un suivi pédagogique, des ateliers d'écriture, un dossier pédagogique. Et puis ensuite, on a aussi une tournée dans les maisons pour tous de Montpellier. Mmh. Ça, c'est important de le rappeler. Avec aussi un passage au CHU et puis à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. Donc, qui est à chaque fois une expérience très, très particulière d'aller jouer là-bas dans les publics empêchés, comme on dit.
Ouais. Oui, oui, non, la mise en scène est très intéressante, notamment au niveau de la mise en espace. Hein, cette quadrifrontale, excusez-moi, c'est difficile à
c'est
dire.
C'est pas facile. Hein.
C'est pas facile. Et c'est vrai que, bon, ça, on s'est tous dit que c'était une sorte de ring, hein, et il y avait une confrontation entre les lumières aussi. Enfin, alors, les lumières, les vraies, les néons, et puis les lumières de Diderot, philosophe des lumières, et celles du jeune du XXIe siècle qui, quand même, a aussi une grande, grande culture.
Absolument, parce que, absolument.
Voilà. Donc, c'était très, très intéressant. C'est vrai qu'au début, on a un peu de mal. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, là? on est surpris, quoi. On ne s'attend pas du tout à ça. D'autant plus que, bon, Denis Drault, comme Stéphane, moi, j'ai étudié à l'école, en plus en Italie. J'avais lu Jacques le Fataliste, évidemment, et La Religieuse. Mais la correspondance... Alors, pour moi, je ne savais pas du tout. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et voilà, c'est quelque chose qui est très bien. Félicitations.
Merci. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on passait le temps à s'écrire aussi. Il faut voir, par exemple, la correspondance de Voltaire. Ça fait 13 volumes en Pléiade. Alors, j'en ai lu un petit peu. Je n'ai pas tout lu. Mais c'est vrai que Diderot, il y a un volume en collection Bouquin. C'est la collection Bouquin sur laquelle vous avez travaillé.
Oui, mais bon, on a un peu triché quand même, parce que je trouve que quand on avait assemblé toutes les lettres avec Muriel, après, je trouve qu'il y avait quand même un déficit de contenu, parce que c'est pour ça qu'on a triché, on est allé puiser dans un peu le rêve de D'Alembert, on est allé puiser dans des essais sur le règne de Claude et de Néron, on est allé puiser dans des critiques de salon, on est allé puiser dans des articles de l'encyclopédie pour avoir un peu plus de matière. Donc, mais il doit y avoir à peu près 80% de la correspondance sur la totalité du texte. Mais
il semblerait d'ailleurs que sa fille Angélique ait fait pas mal de rétention. Enfin, c'est-à-dire qu'on a peu de correspondance parce que il semblerait que les historiens ont l'air de dire que peut-être Angélique, sa fille, aurait donc mis de côté, brûlé,
fait disparaître.
Disparaître une partie de sa correspondance, notamment celle qui aurait été la plus sulfureuse, qui était liée plus à son libertinage ou à ses maîtresses, on va dire pour la mémoire de sa mère, quoi, quelque chose comme ça.
Ouais. Enfin, bon, surtout voilà. Les réponses.
Surtout les réponses, voilà. Surtout ça.
C'est vrai que Diderot, il avait aussi écrit Les bijoux indiscrets, si je ne me trompe pas, en tant que libertin. Robin, toi, tu as vu le spectacle.
Quelles
sont
tes
questions et réactions ?
Eh bien, je pense que ce spectacle, lorsqu'il va être joué dans les lycées, va être d'autant plus intéressant pour les professeurs que pour les élèves. Car la technique de transmission et d'échange de savoir qui est mise en place entre Diderot et ce jeune, comme tu disais Florent, il y a une technique un peu socratique de maïeutique, et là, je l'ai trouvée totalement pertinente. Et c'est-à-dire que Diderot ne cherche pas seulement à combler un savoir, mais il y a toute une technique d'échange de procédés critiques, c'est-à-dire que l'élève va avoir un point de vue très critique vis-à-vis des écrits de Diderot, vis-à-vis cet échange de paroles, et à chaque fois, il reporte les paroles de Diderot par rapport à sa propre vie et par rapport à aujourd'hui. Et en cela, il y a vraiment le travail, je trouve, que chaque étudiant doit faire de comparaison des philosophes, c'est-à-dire ne pas prendre ces écrits d'un point de vue totalement naïf et ne pas prendre pour vrai ce que certains professeurs révèrent. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment l'échange que moi je trouve idéal entre un professeur et un élève, cet échange verbal, mais qui peut aussi se faire par écrit. Et du coup, l'élève qui devient aussi le maître du professeur.
Oui, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs. Il y a un moment donné dans le spectacle un inversement, c'est-à-dire Diderot dit allez-y, enseignez-moi l'électricité. Et en fait, cette situation de maître à élève s'inverse, c'est assez amusant. Ouais.
Et un professeur qui s'intéresse à son élève. Alors, outre le fait qu'il y a une distance générationnelle et une distance technique qui fait que c'est normal qu'il ne comprenne pas ce qui se passe devant lui. Il y a un véritable respect des deux personnes. Et je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer aujourd'hui de ces échanges-là.
Christopher, qui est un petit nouveau qui nous accompagne et qui va faire partie de l'équipe de Vendredi Théâtre, tu as assisté aussi au spectacle.
Oui, bien sûr.
Et toi, tu as une formation d'historien plus que de littéraire.
Oui, donc avec une formation d'historien, on se retrouve toujours un peu méfiant vis-à-vis des anachronismes. Mais j'imagine que c'était un parti pris et je trouve qu'il a été assez bien réussi et qu'il apporte beaucoup dans l'échange et dans la pièce. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il ne faut pas voir la pièce d'Hydro Bagarre comme un échange philosophique rébarbatif. C'est tout le contraire. C'est un texte qui est fait pour le dialogue et qui est facile à suivre et qui est très intéressant. Et je vois par là que s'il est diffusé dans les lycées, c'est très important pour les élèves, évidemment.
Oui, d'ailleurs, on a eu... c'est très bien accueilli par les jeunes. J'ai l'impression que c'est peut-être
c'était même... la première mardi hein.
Voilà, c'était la première mardi, il y avait beaucoup de jeunes, mercredi un peu moins quand vous êtes venus, mais c'est très bien accueilli par les jeunes et notamment cette scène quand même assez chaude de masturbation dans le rêve de D'Alembert. Alors au théâtre, on m'avait dit, oh là là, est-ce que ça va pas déborder ? Est-ce que on va réussir à contenir le public, le jeune public ? Mais finalement, c'est une scène de comédie entremêlée de la direction d'acteur que Diderot dirige cet acteur en lecture. Et c'est une scène très amusante comme ça, et finalement très poétique, et qui je trouve parle bien pour les jeunes d'aujourd'hui.
En plus, on parlait de la modernité de Diderot. C'est vrai que moi, j'ai bu du petit lait à chaque fois qu'il commence à parler de religion. Mon côté anticlérical qui revient. Quand il parle de matérialisme, parce qu'à l'époque, c'était presque impensable d'aller vers l'athéisme.
Ah oui, c'était très mal perçu et c'était un véritable combat sociétal. Enfin, vraiment, les gens qui prenaient cette posture de façon ouverte étaient...
Il y avait le baron Holbach qui avait cette attitude-là.
Par exemple, mais ils étaient vraiment soit emprisonnés, soit surveillés de très près. Enfin, c'était un vrai problème, donc c'était un vrai combat. Et plusieurs fois dans le spectacle, il est question d'aller en Russie. Il avait eu une expérience comme ça de quelques mois où il était allé à la cour de Russie chez Catherine II. Et apparemment, ça s'était très bien passé puisqu'elle lui avait fait des ponts d'or
Reine éclairée.
Ouais, visiblement.
Despote éclairé.
Oui,
c'est tout justement le paradoxe
de Diderot, encore un. Encore un.
Ouais.
Et il était question qu'il s'enfuit et il a tout fait pour rester. Donc, malgré les périls qui l'environnaient, là, je cite le texte, c'était quelqu'un de combattant. Et d'ailleurs, le Diderot bagarre a ça aussi, cet aspect de ring. Enfin, on y pense tout le temps, même si on ne met pas les gants sur le plateau ou que physiquement on ne se tape pas dessus, mais intellectuellement, on est bousculé constamment. Voilà.
Gradia, tu voulais rajouter quelque chose ?
Simplement, on pourrait peut-être dire deux mots sur ce jeune acteur, l'éclairagiste, justement, Quentin Morio. On peut dire.
Quentin, c'est un ami que j'ai rencontré pendant ma formation au Conservatoire du 15e arrondissement à Paris. Donc, il y a déjà pas mal d'années. Donc, on s'est connus très tôt. On a travaillé très souvent ensemble. Il faisait partie de ma compagnie à mes tout débuts. D'auteur et metteur en scène et c'est vrai que j'étais très très heureux de le retrouver sur ma première production.
Enfin, quand il dit le mot pas mal d'années, il est amusant, il a quand même 24 ans. Hein, voilà.
Ouais, mais ça remonte à mes 18 ans. Ouais.
Ouais, c'est énorme, 6 ans. Effectivement.
Et c'est très difficile. Enfin, je tire un peu mon chapeau parce qu'il y a, il a aussi appris un petit peu le métier de technicien pour ce spectacle. Et la technique est très très lourde, comme c'est un spectacle à installer partout. On peut se brancher que sur du 220. On n'a pas de hauteur de plafond. On n'a pas de grille pour accrocher les lumières. Donc c'est lui qui fabrique toute la lumière en direct. Et c'est vrai que c'est vraiment un challenge. Je suis heureux d'avoir réussi ça, d'avoir poussé au bout cette idée parce que c'est difficile de jouer un texte, un texte exigeant et pointu et en même temps de devoir monter des spots.
Cela dit, j'ai pas l'impression que ça se sente. Je pense que, enfin, c'est justement tout à sa gloire d'ailleurs. Je te vénère, Quentin, si tu m'écoutes. Non, mais parce que en fait, je trouve que c'est relativement léger. Il arrive à installer quand même 4 poteaux avec les branchements électriques ad hoc. Il installe donc les lumières, il jongle avec des bols qui sont des lumières qu'il vient installer sur la scène, etc. Et tout en n'ayant l'air d'eux. Non, c'est...
Oui, mais il est parfait. C'est pour ça qu'au début, on se dit, mais pourquoi il met l'éclairage juste sur scène?
Oui,
c'est vrai que moi, les 10 premières minutes, j'ai eu un petit flottement aussi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça devait se jouer une semaine et il y a une prolongation.
Oui, ça se joue jusqu'au 23 novembre, donc dans la petite salle du Théâtre des 13 Vents.
Et il faut se dépêcher de réserver parce que c'est presque complet.
Parce que c'est presque complet.
Voilà. On va rappeler donc que le spectacle s'appelle le Diderot Bagarre. Donc la semaine prochaine, c'est soit 19h, soit 20h30. Ce soir, c'est à 20h30.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Le mardi, c'est à 19h. Le mercredi, à 20h30. Le jeudi, à 19h. Et le samedi, je ne sais pas.
Et le samedi, ça joue pas. Ça finit vendredi prochain.
Voilà, c'est donc au Théâtre des 13 Vents. Mais il me reste à vous remercier de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. On va faire une petite pause musicale avec un contemporain de Diderot. Il s'agit de Christophe Willibald Gluck. Bien sûr, c'est un Orphée Eurydice interprété par la Petite Bande, avec entre autres René Jacobs comme haut de contre. Et oui, on est obligé d'interrompre cet extrait d'Orphée Eurydice avec la petite bande. C'était donc une œuvre de Gluck, contemporaine de Diderot, avec René Jacobs comme hôte contre. Deuxième plateau de ce vendredi théâtre, je suis toujours avec Grazia et Christopher qui ont vu une pièce que je n'ai pas encore vue qui se déroule à la Vista. Il s'agit de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Grazia, je vais te laisser présenter nos invités parce que je suis spécialisée à écorcher les noms.
Alors, nos invités sont Valeria Emanuele et Pablo Facundo Meliglio. Pour mon grand plaisir, grand honneur, ils sont tous les deux italiens.
De la compagnie La Tête de Bois. Voilà. Alors, La Mégère apprivoisée, il s'agit donc d'une comédie de Shakespeare. Je crois que c'est sa troisième comédie en cinq actes. Vous avez dû faire des coupures parce que normalement, c'est... on peut faire cinq heures de spectacle.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de péripéties. Donc, je pense que vous avez fait des petites coupures.
Des petites et des grandes, oui. C'est vrai, c'était un peu un casse-tête, effectivement, essayer de respecter l'intrigue en même temps. On a dû quand même enlever des personnages, donc c'est comme vraiment enlever toute une partie effectivement de l'histoire, mais on est obligé, c'est trop long.
Comment est-ce qu'on pourrait résumer l'histoire, La Mégère apprivoisée? Est-ce que c'est vous, La Mégère apprivoisée?
Yes. En fait, c'est l'histoire de... C'est une histoire simple, hein, comme en fait toutes les histoires, même les plus tragiques de Shakespeare. Ça, c'est une comédie, ça se trouve. Bon, le personnage principal, enfin, il y a deux personnages en fait qui sont les plus importants. C'était ce couple, c'est un homme, une femme, Caterina et Petruccio. Et ils ont tous les deux un caractère
bien
terrible.
Trompé.
Voilà, voilà, ils sont terribles tous les deux. Et donc, du coup, ils se retrouvent. En fait, elle, Caterina, elle est méchante, enfin, elle est mégère, elle est méchante.
Elle se laisse pas faire.
Enfin, plus que ça. Hein.
Vraiment plus. De manière offensive.
Exact, offensive, tout à fait. Et donc, du coup, pour se libérer de cette carapace que la méchanceté, en fait, qui l'emprisonne un peu aussi, elle a besoin de quelqu'un qui soit même auteur.
Qui puisse lui tenir tête.
Voilà, c'est ça. Et c'est Petruccio.
C'est un combat de catch presque.
Oui, hein. C'est j'adore.
Et Pablo, vous jouez quel rôle?
Eh ben moi, je joue les personnages secondaires. En fait, il y a deux personnages qui font les contrastes avec cette catch entre Petruccio et Caterina. C'est Lucenzo et Bianca, où l'amour est comme on les connaît. Dans les feuilletons télévisés idylliques et vraiment...
Bianca, c'est la jeune sœur de la Mégère et qui n'a pas du tout le même caractère que sa sœur.
Parce que l'histoire, justement, c'est ça. C'est une famille, donc deux sœurs, un père. Et les deux sœurs, il y en a une très méchante et l'autre très gentille. Donc tout le monde est amoureux. Il y a plein de prétendants pour la deuxième. Alors que l'aînée, que c'est Caterina, il n'y a personne parce que son caractère est terrible. Donc du coup, le père dit, si je ne vais pas marier l'aînée, je ne veux pas marier la deuxième. Donc, toute l'histoire se déroule. Les prétendants, ils essayent justement de décaser la première. Et ça se trouve, Petruccio arrive et hop, il dit, bon, je cherche une femme à marier. Tiens, voilà, on a ce qu'il faut pour toi. C'est Caterina, comme ça, nous, on pourra effectivement atteindre la deuxième.
Et il ne sait pas ce qui l'attend, là.
Mais si, le sait, justement. C'est pour ça qu'il aime.
Mais en fait, Petruccio, il est très intéressé au départ.
Exact.
Hein? Exactement. Il l'épouse pas par amour.
Tout à fait, c'est ça. Exactement, parce que lui dit, voilà, mon père est mort, je cherche une femme à épouser, en fait, pourvu que ce soit riche, je pourrais épouser même la pire, parce que tout le monde lui dit, mais attention, elle est mégère, méchante, acariâtre, je sais pas ce que...
Et lui c'est dit, une harpie.
Mais c'est une harpie, c'est... Et lui dit, oh, je m'en fous, pourvu que ça soit riche, elle soit riche, puis ça va vraiment de l'argent.
Et en fait, il use de moyens très, très, très durs. En fait, il l'humilie, il lui fait souffrir la faim.
Oui, ça se passe quelque chose que lui n'avait peut-être pas imaginé. Hein. Dès qu'ils se voient tous les deux, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une scène, justement, comme on dit, du catch, parce que c'est physique. Et lui dit aussi, je ne peux pas faire la cour comme un... Je ne fais pas la cour comme un gamin. Il ne fait pas la cour comme un gamin. Comme un...
Oui, comme un parallèle. En fait, c'est construit tout en parallèle. Chaque fois, il y a une scène d'amour très doux. Et il y a la scène de Catherine, c'est tout le temps ce parallélisme en fait entre les deux.
Les couples.
Et voilà.
Lui fait pas la coupe comme un gamin, lui il va et donc du coup elle résiste. Mais c'est vrai, ça se passe, surtout dans cette première scène où vraiment il y a la rencontre. il se découvre. Donc du coup, lui, la voix est de rien. Il y a quelque chose qui il commence à se plaire, il y a de l'amour en fait qui commence à, mais elle par exemple peut pas admettre que en elle-même qui lui plaît, qu'il y a un truc de séduction très très fort qui s'instaure et qui commence à germer et que fur et à mesure ça devient de plus en plus puissant, parce que le père il avait dit d'ailleurs je veux pas marier sans qu'elle soit consentante. Et donc du coup bon,
il y a un petit côté dressage aussi, non?
Non, justement, elle n'est pas dressée. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Elle a apprivoisé, mais pas dressée, jamais. Catherine reste Catherine tout le temps. Après, voilà, ce qu'on a dit, bah, c'était ça a duré 3 ans ce débat hein, pour monter cette pièce. Donc nous, on a bossé, moi j'ai pleuré comme un chalet, comme une madeleine.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on la voit, elle fait peur. Au début, tu dis aïe, aïe, aïe.
C'est le but.
Le regard, c'est quelque chose d'impressionnant. Je ne sais pas comment... Tu fais, je te dis tu, parce que nous, en Italie,
avec
on se
plaisir.
Dit tu. Et c'est vraiment très, très, très impressionnant. Hein. C'est...
J'ai beaucoup travaillé sur ça. Hein,
parce le regard, que... c'est foudroyant, quoi. Hein?
Christopher, toi, tu as vu la pièce aussi.
Oui, je dois dire qu'on a passé avec Grazia, c'est près de 2 heures qu'elle dure,
oui,
la pièce.
Oui, 2 heures.
Bon, on n'a pas vu le temps passer, c'était très drôle. Et je voulais souligner, on n'en a pas encore parlé, le travail impressionnant qui a été fait pour les costumes.
Oui.
Oui, j'ai le nom. Le nom, c'est Sonia Civelle.
Tout à fait.
Costumière. Ah,
elle est géniale. Oh, elle s'est lâchée. Vraiment, enfin, nous, on aime bien travailler, notre compagnie, la mienne, disons aussi, on n'a même pas cité le metteur en scène, Mehdi Benabdelouab. Donc, vraiment, c'était un travail. Et nous aimons vraiment, quand on travaille avec des artistes, donner un petit peu carte blanche, dans le sens que, il y a une direction, mais après, vas-y, exprime-toi, lâche-toi, essaie de trouver ta vision aussi de la chose par rapport à... C'est bien vraiment un véritable échange. Et donc, du coup, la costumière, voilà, elle s'est lâchée. On a fait de la récup aussi avec tous les chapeaux qu'on ne dirait pas. Enfin, je ne devrais peut-être pas le dire à la radio, je ne sais pas.
C'est on peut tout dire, on a dit
l'agence. Ah ouais, d'accord, hein. Oui, personne n'écoute. Alors...
c'est pas ce que j'ai voulu dire.
Du coup c'était des chapeaux de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était une grande dame en Italie, tout ça. Tous les chapeaux un peu années 30, mais elle a tout repris, elle a tout retransformé. Alors, du coup, on ne les voit plus, mais parce que c'était le but, c'était ça. C'était l'amour universel. Pour revenir à la pièce, on avait dit travaillons dans ce sens-là. Les costumes, on ne peut pas dire que c'est des costumes Renaissance, parce que c'est irrégulier, c'est pas japonais, ça vient d'où, c'est quoi, l'époque, on ne sait pas trop. Et en même temps, c'est magnifique, c'est. Enfin, je reprends un petit peu.
Non, mais au niveau des costumes, aussi même au niveau de la musique.
Voilà.
Ah, aussi, autre chose. De cet autre musicien, chose. C'est extraordinaire, tu as raison.
Adil, disons-le, Adil, tu es bon. Alors,
oui, impressionnant.
Et c'est vrai que voilà, c'était dans cet univers qu'on voulait créer de mélange, parce que voilà, on a c'est un mélange de cultures. Donc moi, je suis italienne, j'aime beaucoup le langage, enfin la langue. Facundo, il est argentin et donc il amène ça aussi avec son accent, même ses chansons et tout ça. Et après Adil, il est arabe et il amène ça aussi. Donc c'est des sonorités aussi, ça, tout ça se mélange. D'ailleurs, les chœurs, c'est Sandra Cotronei qui vient, enfin une italienne qui a travaillé avec Giovanna Marini,
ouais.
Peut-être quelqu'un connaît.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Travaille avec elle, donc elle a fait tous les chœurs.
De...
Voilà.
Bien,
donc bon, après on n'a pas pu développer au maximum cette partie-là populaire, comme on aurait peut-être voulu, mais on a quand même beaucoup travaillé. Après, à un moment donné, il faut couper parce que sinon 4 heures du spectacle.
Ah, on aurait résisté, hein. Moi,
mais peut-être oui. Ça va venir.
J'ai vu que Pablo est venu avec un instrument. Hein, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un petit extrait musical?
Alors,
de la
je vais vous faire un petit extrait avec les charangos. Hai mangiato un gran di uve, hai mangiato un gran di uve, hai mangiato un gran di uve, pasclari un po' la voz, hai mangiato un gran di uve, hai mangiato un gran di uve,
più bella, se scusata la più bella maritata, la più bella se scusata, cian 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 a son mari. Oce bella viela festa, oce bella viela festa, oce bella viela festa, chantarem fino alla fin, e chantarem fino alla fin, e chantarem fino alla fin.
Bravo, ouais, bravo, ouais. Parce que je sais que c'est pas facile à faire devant un micro. Je vois que l'heure tourne, je vais rappeler que nous parlons du spectacle qui se déroule à la Vista, la mégère apprivoisée d'après William Shakespeare, la compagnie Les Têtes de Bois. Ça se passe jusqu'à quand ?
Jusqu'au 2 décembre.
Et c'est à quelle heure ?
Donc, il y en a pour tous les goûts, parce que c'est vendredi, enfin, jeudi vendredi à 19h, samedi à 21h et dimanche à 18h30.
Oui.
En tout cas, courez-y, c'est un bon plan Divergence FM. Christopher et Grazia sont revenus complètement enthousiastes.
Est-ce qu'on peut revenir ?
Oui ! Revenez !
Merci à vous de nous avoir accompagnés. On va se quitter avec un extrait d'Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons, interprétées encore une fois par la petite bande.
Que l'auditeur ne saurait jamais si c'était le jour ou la nuit, quelles étaient les voix qui lui parlaient, quelles étaient les musiques qu'il entendait.
Une radio qui se risque à multiplier les lignes de fuite imaginaires. Hein, qu'est-ce qu'une radio libre sinon ?
ces enregistrements, ces enchaînements n'étaient pas des enchaînements aléatoires au sens des sélecteurs d'aujourd'hui qui programment en fonction des beats et des rythmes.
Par exemple, on peut parler des livres sans faire la promo des livres, parler de musique en faisant vivre la musique. La radio était une expression.
C'était des enchaînements sensés, c'est-à-dire qu'on écoutait les musiques, on écoutait les paroles et on trouvait des effets de contraste et de rebondissement pour construire des mini-récits.
Divergence FM.
Indépendamment des causes à défendre, un souci d'écologie de l'oreille.
C'était la période bénite où dans les radios, il n'y avait que des créatifs et pas de commerciaux.
Les grosses radios ne le font pas parce qu'il n'y a rien à gagner. Ça, c'est évident.
Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Dernière partie de l'émission, dernier plateau, avec un spectacle qui se déroule actuellement au Carré Rondelet. Le spectacle s'appelle 4 en scène à Broadway et c'est la compagnie 4 en scène. Je suis toujours avec Robin qui a assisté au spectacle hier avec moi. Mais je vais vous laisser vous présenter. Je n'ai pas noté tous vos noms, je vais vous laisser vous présenter. À vous.
Alors, c'est Barbara Louillot.
Fabrice Bueno.
Célia Gracias, et il manque Anthony Alborghetti.
Voilà, qui s'occupe plutôt de la mise en scène, qui a coordonné l'ensemble.
C'est plutôt moi.
Ah, c'est plutôt vous.
Et Anthony, lui, plutôt pour tout ce qui est coordination son et lumière.
Alors, donc, ce 4 en scène à Broadway, il s'agit d'un spectacle autour des comédies musicales.
Exactement, les comédies musicales de Broadway.
Alors, qui ont aussi donné des films.
Oui.
Voilà, parce que j'ai reconnu quand même, il y a le
cabaret.
Cabaret, il y a Chicago, j'essaie pas d'oublier, Air
et
Grease, et puis on a
Rent.
Et Rent,
que je n'ai pas vu, ça, voilà. Que je ne connais pas. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire un spectacle autour de la comédie musicale et quels ont été les critères pour les choix des comédies musicales choisies?
Déjà, je pense qu'on est tous passionnés de comédie musicale à la base. C'est une grande passion. Ensuite, il y a déjà eu un premier spectacle qui a été fait l'année dernière au Chez du Terral, où là, on était beaucoup plus, on était une soixantaine de personnes, dont toute une équipe de chœur, de danseuses, de chanteurs et chanteuses. Et puis, on a voulu, donc c'était dans un cadre semi-pro avec des amateurs, et pour une association caritative, pour l'association Rêve, et on a voulu réduire l'équipe pour en faire une formation pro avec les acteurs principaux, donc Barbara, Fabrice, Anthony et moi.
Donc c'est une jeune compagnie.
C'est une jeune compagnie qui a maintenant
un an,
enfin en comptant les répétitions, ça fait presque un an et demi maintenant, voilà.
Et c'est un spectacle qui va tourner, qui a déjà tourné un petit peu.
C'était notre première.
C'était votre
à Cannes
hier.
Première, oui.
Et on était dans
et
la
on
salle.
Et on espère que ça va tourner. Oui, oui, c'est notre but, d'essayer de le diffuser au maximum dans le Hérault, le Gard, en France, à Broadway, pourquoi pas.
À Broadway, bien sûr. Robin, tu étais avec moi hier pour cette première. Est-ce que c'est un univers que tu connais un petit peu, toi, la comédie musicale Broadway?
Eh bien, pas du tout. C'est un univers que j'ai découvert, pas hier, mais bien avant, parce qu'il y a quand même de plus en plus de cabarets, je trouve, au théâtre. On voit que les cabarets, c'est un spectacle qui a perduré et qui attire aussi toujours beaucoup de monde aujourd'hui.
D'ailleurs, c'était plein hier.
Pour une première, c'était pas mal. Et vous nous posiez la question, pourquoi on a choisi ces quatre titres? On a essayé justement, parce que la comédie musicale n'est pas forcément bien développée en province. En Paris, ça commence à très très bien se développer. Et puis à Londres, en Allemagne, à New York, évidemment, à Broadway. On a essayé de prendre des standards, c'est-à-dire Grease.
Des tubes.
Exactement, des tubes. Cabaret, c'est quand même assez connu, Liza Minnelli. Grease est très connu, Olivia Newton-John, John Travolta. Chicago, peut-être un petit peu moins.
R, c'est plus récent, Chicago.
C'est plus... Non, c'est pas, la comédie musicale en elle-même n'est pas récente, le film est plus récent. R est très connu, Let the Sunshine, tout le monde connaît.
Bien sûr.
Donc on a voulu un petit peu... à rappeler ces comédies musicales un petit peu oubliées maintenant, en leur donnant un petit coup de fraîcheur et en disant voilà, que c'est toujours vivant, c'est toujours d'actualité. Et il y a beaucoup de gens des années 70 qui s'identifient. On avait fait R en Choquaise et il y avait vraiment pas mal de gens qui disaient ah, ça fait du bien d'entendre enfin ces chansons-là, ça nous rappelle vraiment les années hippies, les années, voilà, les années 70.
Au départ, donc R, c'était une comédie musicale qui avait été créée à Broadway dans les années 60.
67 exactement.
Voilà. Et après, qui a été adapté au cinéma par Milos Forman dans les années 70.
Voilà.
Si je et en France, pas. Où les héros principaux étaient Julien Clerc et Gérard Lenormand.
Et c'était une pièce qui avait fait scandale à l'époque en France parce qu'ils jouaient nus.
Oui, tout
à fait.
Partie de la pièce. Il y avait la fin de la première partie, ils étaient nus. Et la comédie musicale qui s'est fait assez récemment sur Paris, ils sont encore nus à la fin du premier acte. Mais ça dure c'est très rapide. C'est vite
maintenant.
Noir.
Et pourquoi n'avoir pas choisi des comédies musicales plus années 50 parce que c'est quand même dans les années 60, 70, 80.
Je pense que c'était un parti pris justement de prendre des comédies musicales connues pour commencer, mais on a tout un panel de comédies musicales qu'on adore et qu'on voudrait faire, notamment Les Misérables, hein, on est d'accord là-dessus, mais qu'on fera peut-être plus tard. Déjà, il faut remettre la comédie musicale
Au
goût du jour, voilà, pour le public public provincial. Et puis après, effectivement, on en a plein qu'on voudrait mettre. Il fallait faire un choix. Donc on a pris ces quatre-là.
On disait hier, c'était la première, donc avec une salle pleine, ce qui fait plaisir. Et vous avez discuté un petit peu après avec le public qui était présent.
Tout à fait. On a bien après partagé, voir les sentiments des gens.
Le ressenti.
Voilà, ce qui marche, ne marche pas. Et c'était plutôt positif.
Plutôt content, oui.
Mais les gens applaudissaient à tout rond par la fin.
Mais on finit effectivement par Grease, qui est quand même quelque chose de très très festif. Et que tout le monde connaît. Hein.
C'est spectacle anti-crise.
Et quels sont les projets de la compagnie pour l'avenir, une fois que déjà faire tourner ce spectacle?
Oui, déjà, voilà, dans un premier temps, parce qu'on a quand même beaucoup répété. Maintenant, on voudrait pouvoir se faire plaisir et faire plaisir au public sur scène. Et puis, on a plein de projets. Peut-être faire Chicago en entier aussi, cette comédie musicale.
Ah oui, carrément.
Oui. Et puis, comme je vous disais, il y a d'autres comédies musicales aussi qui nous tiennent à cœur, comme Jekyll and Hyde, comme Les Misérables. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment des très, très belles comédies musicales.
Des grosses pointures, quand même.
Plus pointues, oui. Plus pointues, beaucoup plus pointues. Mais avec un public aussi peut-être un peu plus expert. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix tout de suite.
Il y avait une chose curieuse hier, vous chantez sans micro, a cappella pratiquement.
Voilà, parce que c'est une petite salle.
C'est une petite salle.
Mais ce soir, nous sommes donc dans le cadre des théâtrales de Castries, au foyer Étienne Paulet. Et là, nous, on sera avec des micro-casques, bien évidemment.
Mais c'est vrai que l'intérêt des salles comme le Carré Rondelet, des petites salles, c'est de pouvoir aussi offrir des opportunités aux jeunes compagnies.
Oui, Avner, donc le directeur, est vraiment sensationnel pour ça parce que c'est un tremplin pour nous et on peut entre guillemets s'essayer dans ce joli petit cabaret qui est tout mignon, tout tamisé et pour après envisager des plus grandes salles. D'ailleurs, on a une programmation, là on est content, à Carnon au mois de juillet, c'est en parti pris.
On me dit que non.
Pour l'instant, on ne sait pas, mais ça pas a beaucoup plu à la personne qui est venue, donc elle va appuyer notre dossier au maximum pour.
J'avais compris que c'était bon.
Ah bon. À Marie-Lie de Sûr, ça doit passer en commission, mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas.
Voilà, on essaye de faire venir un petit peu des programmateurs afin de se faire remarquer et éventuellement que les personnes achètent le spectacle.
Et quels sont vos chanteurs, chanteuses préférés qui ont fait des comédies musicales? Il y a bien sûr Liza Minnelli.
Barbara Streisand.
Il y en a d'autres?
Moi, je suis très Liza Minnelli, Barbara Streisand. Ça reste dans mon registre musical à moi.
Après, moi, les noms, problème, voilà. C'est au niveau masculin, il y a des grosses pointures, mais qui ne sont pas du tout connues.
Dans le nom des rockers.
Voilà, dans le milieu français ou européen, je ne pense pas qu'ils sont trop connus. Mais après, le chanteur de Jekyll and Hyde, c'est... Et Jésus-Christ Superstar aussi, on a oublié.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, ça c'est vraiment années 60-70, Jésus-Christ Superstar. C'est
70,
oui, dans les années 70.
Les années psychédéliques. J'ai vu ça il y a très longtemps.
Ah oui.
Mais c'est vrai que Broadway, c'était quand même, c'est toujours une avenue qui permet de... Il y a beaucoup de théâtre, je crois.
Il y en a plein, oui.
Il y a Londres aussi, dans le West End, où c'est l'équivalent de Broadway. Si vous allez à Londres, en fait, ce qui se fait à Broadway actuellement, vous le retrouvez à Londres. Mm-hmm. Il y a le Book of Mormon, en ce moment, il y a Sister Act, qui est aussi en France, mais il y a des gros... ils arrivent à délocaliser en Europe, justement, et vous allez voir le même spectacle à New York, et à Londres sera le même.
Il y a peut-être moins une tradition en France de comédie musicale. Ça commence un petit peu
Ça vient bien à Paris.
Avec une, depuis
à Paris, les premières écoles de comédie musicale, c'est-à-dire de formation pro, se sont développées en 2004, parce que j'en faisais partie, j'étais professeure là-bas. C'était la seule école qui s'appelait l'ECOM qui s'est développée. Et maintenant, je dirais qu'il y en a un peu à tous les coins de rue sur Paris.
Et les spectacles qui sont sur Paris, est-ce qu'ils ont une chance un jour d'aller sur Broadway ?
Déjà, de venir en province, c'est déjà énorme. Déjà, d'être diffusé en province, c'est déjà très bien pour que le public provincial puisse apprécier la même chose que sur Paris. Et après, à Broadway...
Si, Mozart. Mozart, l'opéra rock, c'est le premier, je crois, gros spectacle qui se monte actuellement, qui va être mis en scène à Broadway.
Il n'y a pas eu Les Misérables avant ?
Ah oui,
mais Mozart Opéra Rock reste un spectacle de musical, mais pas une comédie musicale, parce qu'il n'y a pas d'orchestre, donc ça fera toujours la différence.
Donc voilà, le spectacle s'appelle donc 4 en scène à Broadway, c'est au Carré Rondelet, c'est jusqu'à quand et à quelle heure?
Alors nous avons encore samedi à 20h30 et dimanche à 18h.
Et après, donc, peut-être dans la région, dans d'autres lieux, dans d'autres salles.
Voilà, on a d'autres programmations à venir. On a à Devezou le 3 février.
Oui.
On a le Kawa Théâtre aussi.
Ah oui, le Kawa Théâtre, bien sûr.
Le 27.
Au mois de janvier, 27 janvier.
Pour l'instant,
c'est ça voilà. Déjà. Voilà.
Et après, si les gens ils sont intéressés, ils peuvent aller. On a créé une page Facebook, bien sûr. Et le site, d'ici la semaine prochaine, 4 en scène à Broadway, devrait être mis en ligne.
On parlait des grandes vedettes de la comédie musicale. Pour moi, il y en a une qui est irremplaçable. C'est Judy Garland.
Ah oui.
Donc, on va se séparer avec Over the Rainbow, Judy Garland. Un enregistrement public. Merci à vous de nous avoir accompagnés
sur ce
dernier plateau de Vendredi Théâtre. Très bonne semaine théâtrale à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Vendredi Théâtre.
Way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby somewhere. Skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
Why?